Stéphanie Maupas, bonjour.
Bonjour.
Pour justifier leur demande d'acquittement, les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet affirment que le bureau du procureur n'a pas d'éléments de preuve suffisants contre leurs clients. Alors que disent les 82 témoins et les centaines de documents à charge qui ont été produits par l'accusation ces 2 dernières années?
Ils disent beaucoup de choses. Alors, il y a différents témoignages. Il y a des victimes directes du conflit. Il y a d'autres témoins qui sont venus et qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire des personnes qui appartenaient notamment aux forces de sécurité ivoiriennes et qui ont participé aux violences. Donc, ils sont venus raconter à la barre la situation telle qu'ils la voyaient. Vous savez que c'est un niveau de preuve assez important qui est demandé puisqu'on parle de crimes contre l'humanité. Il ne s'agit pas de simples violations des droits de l'homme. Il faut aussi démontrer que c'était un crime contre l'humanité, c'est-à-dire démontrer qu'il y a eu un plan de la part du pouvoir en place qui visait explicitement les civils favorables à Alassane Ouattara. Et c'est donc la question la plus délicate et sur laquelle s'opposent les deux équipes, parce que il est vrai qu'il a été très difficile pour le procureur de démontrer qu'un plan existait, qu'il y avait en quelque sorte un complot qui visait des civils favorables à Alassane Ouattara. Et c'est essentiellement là-dessus, que les avocats se battent.
Alors, pour prouver que Laurent Gbagbo a conçu avec son entourage un plan commun pour se maintenir au pouvoir à tout prix, le bureau du procureur produit les minutes d'une réunion de concertation qui aurait été organisée le 3 décembre 2010 à Abidjan, juste après le second tour. Qu'en est-il?
Oui, effectivement. Alors, pareil, ces minutes-là, en fait, il produit les minutes de ces réunions. Il produit aussi un registre de visite à la présidence. Et ça, donc, pour démontrer qu'il y a eu un plan commun. Ce que dit en face la défense, c'est qu'il est normal qu'en situation de crise, un chef d'État puisse rencontrer ses chefs d'État-major, puisse rencontrer les différents protagonistes. Et ce qui se passe, c'est que des témoins, donc des insiders, sont venus à la cour. Donc, il y avait le chef de la police, les chefs de différents corps d'armée, le chef du SECOS, Philippe Mangou, l'ancien chef d'état-major, qui sont venus à la barre. Et évidemment, des questions ont été posées sur le contenu de ces réunions, sur les éléments qui pourraient montrer qu'il y a eu un complot. Et là aussi, ce sont des éléments de preuve qui ne sont pas, je dirais, francs et fermes. On n'a pas eu d'éléments qui montrent qu'il y a eu effectivement un plan. C'est-à-dire, il y a des éléments où, évidemment, est discuté dans ces réunions la situation sécuritaire et d'éventuelles mesures à prendre, mais rien qui puisse montrer qu'il y a effectivement un plan élaboré qui ciblerait des civils pro-Ouattara. Donc c'est là-dessus que le procureur a le plus de difficultés.
Et sur des crimes très précis comme la répression de la marche des femmes d'Abobo le 3 mars 2011 ou le bombardement du marché d'Abobo le 17 mars 2011, est-ce que le bureau du procureur a apporté des éléments précis ou est-ce qu'au contraire la défense a marqué des points?
Alors, la défense de Charles Blégoudet a marqué des points puisque le procureur a annoncé récemment, début septembre, qu'il retirait des éléments de deux chefs d'accusation portés contre Charles Blégoudet et qui sont précisément les chefs d'accusation qui portent sur l'attaque contre les femmes d'Abobo et puis le bombardement d'un marché d'Abobo une quinzaine de jours plus tard. Donc, pour Blégoudet, le procureur n'a pas apporté les éléments. En revanche, pour Laurent Gbagbo, ces chefs d'accusation sont maintenus. Donc, ça laisse à penser que dans l'idée du procureur, il a des éléments suffisants pour prouver sa culpabilité. Il y a eu des victimes qui sont venues témoigner, il y a eu aussi des officiers qui sont venus raconter la situation. À ce moment-là, on avait l'impression quand même que d'après les témoignages des officiers, donc ces fameux insiders, les forces de sécurité étaient plutôt débordées, qu'elles étaient infiltrées par des forces rebelles. Et donc, ça donne un sentiment de confusion sur ce qu'ont pu être les événements à l'époque.
Alors, comme vous le dites, quelques jours avant la reprise du procès, ce 1er octobre, le bureau du procureur a décidé d'abandonner des éléments de 2 des 5 charges qui pèsent sur Charles Blégoudet. Est-ce le signe que le dossier d'accusation contre Blégoudet est le moins solide des deux?
Oui, en tout cas, c'est ce que pensent les avocats de Charles Blégoudet. Les éléments pour prouver la responsabilité de Charles Blégoudet sont en théorie un peu plus simples que pour prouver la responsabilité de Laurent Gbagbo, puisque Charles Blégoudet est beaucoup plus exposé à l'époque de la crise. Il fait des déclarations publiques, il se rend sur différents forums, on le voit, des témoins le voient à différents endroits, donc ça peut donner l'impression qu'il y a un dossier contre lui. Maintenant, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il agissait aux ordres de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il agissait dans le cadre d'un plan destiné à viser les civils pro-Ouattara. Encore une fois, c'est la difficulté du procureur. Voilà.
Quel est le scénario le plus possible de ce lundi?
Il n'y aura pas de décision avant plusieurs mois. Donc, à partir de ce lundi, ça va être 5 jours de débat pour savoir où les parties vont simplement défendre chacune leur position. Mais après, il va y avoir plusieurs mois. On parle de décembre pour une décision. Il y a trois scénarios possibles, un scénario de confirmation des charges. Et à ce moment-là, le procès pourrait se poursuivre pendant à peu près 2 ans où les avocats de la défense viendront présenter leurs témoins. Il y a un autre scénario qui est possible, c'est celui d'acquittement partiel, c'est-à-dire du retrait des poursuites sur un ou deux chefs d'accusation, voilà, ou alors un acquittement, total.
Si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés, est-ce qu'ils sont automatiquement libérés?
Alors, il y a de fortes chances que le procureur fasse appel si c'est le cas. Et donc là, il n'y a pas de réponse définitive, il n'y a pas de règle écrite dans le code pénal de la Cour. Soit les juges décident effectivement de libérer provisoirement et à ce moment-là, le temps d'entendre l'appel, hein, soit ils décident de maintenir en détention. Maintenant, la tendance, j'ai l'impression que la tendance est plus à une libération au moment de la première instance. Donc voilà, il y a aussi une autre situation, c'est si les juges devaient décider d'acquitter sur une partie des charges seulement dans le cas de Laurent Gbagbo. À ce moment-là, il y a de fortes chances aussi que la défense fasse une demande, une nouvelle demande de mise en libération. Et comme vous savez, dans les demandes de libération, le temps compte énormément puisque les accusés sont censés être jugés dans des délais raisonnables. Donc, cette fois, il pourrait y avoir une décision un petit peu différente, hein, de la Cour qui jusqu'ici a toujours refusé ces demandes de mise en libération provisoire. Mais là, les juges pourraient finalement, s'entendre tous les trois puisque jusqu'ici, il n'y a que deux juges qui se sont prononcés en faveur d'un maintien en détention. Donc, les juges pourrait finalement décider d'autoriser une mise en libération provisoire de Laurent Gbagbo, d'autant plus que dans les tentatives de réconciliation qu'on peut voir actuellement de la part des autorités ivoiriennes des libérations, en libérant un certain nombre de personnes impliquées dans la crise de 2010, on peut supposer qu'il sera beaucoup plus difficile de justifier un maintien en détention.
Et ceci quelques mois après la libération de Simone Gbagbo.
Oui, effectivement.
Est-ce que l'acquittement surprise de Jean-Pierre Bemba au mois de juin dernier est toujours dans les têtes? Est-ce qu'il peut faire école?
Il est toujours dans les têtes, évidemment. Il est possible que les juges décident de reporter leur décision quelque temps parce que justement l'acquittement Bemba est encore dans les têtes. Donc, ils pourraient décider éventuellement de rendre leur décision au mois de janvier ou au mois de février prochain. C'est en tout cas ce que me disait un responsable de la cour. Mais je ne crois pas qu'il y ait de similitude entre les deux cas. Je ne
Parce
crois
que...
pas. Parce que les situations sont très différentes. Parce que Jean-Pierre Bemba était effectivement le chef du MLC, mais que le MLC avait été placé sous le contrôle de l'armée centrafricaine, en partie du moins. Et dans le cas de Laurent Gbagbo, il est chef d'État. Et effectivement, il y a ces réunions dont on parlait tout à l'heure où il est présent. Alors, on peut considérer ça normal dans le cadre des devoirs d'un chef d'État. Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, il était en liaison avec ses commandants sur le terrain, mais depuis soit l'Afrique du Sud, soit il était à Gbadolité, mais il était en tout cas loin du terrain, ce qui est
Acquittement.
totalement différent de Laurent Gbagbo.
Depuis l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, j'imagine que le bureau du procureur et Madame Bensouda elle-même doivent être dans une position très fragile, très fébrile, non?
Oui, il y a à la fois un certain découragement, il y a une défiance vis-à-vis des juges qui est assez forte. Si effectivement Laurent Gbagbo devait être acquitté, si le dossier devait s'effondrer, qu'est-ce qu'il adviendrait de l'avenir de la Cour? Il y a eu énormément de dossiers qui se sont effondrés à la Cour. En fait, c'est 50% des dossiers. Donc il y a un taux d'échec de 50%, ce qui est quand même assez énorme pour la Cour elle-même.
Stéphanie Maupas, merci.